Gemma Bovary de Posy Simmons.
Adaptation radiophonique Lily Stein.
Septième épisode.
Passion, ivresse et félicité.
J'ai un amant. Sans l'avoir vraiment voulu, je suis tombée dans les bras d'Hervé de Bressigny, le jeune châtelain du village. Soudain, la vie à Bailleville ne m'apparaît plus aussi désespérante. La maison que je ne pouvais plus supporter est devenue presque accueillante. Charlie, les Rankin et même ce vieux dégoûtant de Joubert qui passe son temps à me reluquer, je les aime tous. Je ne m'ennuie plus du tout. Vive la France!
Le lendemain était un dimanche. Un dimanche où je n'avais pas à aller à la boulangerie. J'aurais pu faire la grasse matinée, mais l'apéritif des Bovary m'avait flanqué la gueule de bois et j'avais mal aux cheveux. À 6 heures, ne pouvant plus supporter le bruit des plumes dans mon oreiller, je me suis levé. J'ai porté les ordures à la benne et c'est là que j'ai entendu une toux de fumeur. Pas le genre réservoir à goudron comme la mienne, une version junior. Hervé avait l'air furieux, souriant et grimaçant à la fois.
Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Je peux pas continuer à la voir, je suis dingue. Qu'est-ce qui m'a pris ? Pas question de la revoir, impossible, faut que je bosse. Imagine qu'on la voit arriver au château, que maman la prenne. Je lui dis quoi ? Oh, c'est juste une nana que j'ai rencontrée au supermarché. Et Delphine ? Si elle l'apprend, je suis mort. Et elle le saura, elle devine tout. Elle va me tuer. Et le mari de Gemma ? Je peux pas la revoir. Je vais lui dire désolé, mais non. J'irai pas ouvrir, je ferai semblant d'être sorti.
Ce n'était pas très dur de deviner ce qui avait conduit Hervé devant le portail de Gemma Bovary. Le désir et la curiosité de voir où elle habitait. C'est alors qu'il a prononcé ce nom, Delphine. Delphine ? Dans mon esprit, Hervé et Gemma étaient si intimement liés que j'avais omis la possibilité qu'il ait une petite amie. Bien sûr qu'il en avait une, et plutôt maligne d'après Christelle, mon informatrice. Delphine avait 21 ans et son studio à Paris, dans un quartier snob. Elle suivait vaguement des cours d'histoire de l'art et la mère d'Hervé la considérait comme une belle fille presque parfaite. Impossible de savoir à quel point Hervé l'aimait, mais prononcer son nom suffisait à l'arrêter net et à lui faire faire demi-tour vers le château. C'était par hasard que j'avais aperçu Hervé. Pour Gemma, c'est une autre affaire. Vers 17 h, je cueillais des haricots dans le potager et j'ai levé les yeux au moment où une silhouette aux cheveux pâles filait devant la maison. Je suis arrivé à temps au portail. Gemma disparaissait sur le sentier qu'Hervé avait emprunté ce matin. J'ai couru après elle. Et si traquer une jeune femme peut sembler criminel, je dois dire à ma décharge que sur le moment cet acte m'est apparu tout à fait légitime. Cet éclair blond était comme un signal. Je me suis senti appelé. Je ne suivais Mrs. Bovary que pour confirmer mes suppositions sur Hervé et elle. Après tout, je ne suis pas un voyeur. Je m'attendais à voir Gemma entrer par une petite porte donnant sur le parc du château. Imaginez ma surprise quand Hervé a surgi sur le sentier juste devant elle.
Gemma, 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 je suis désolé, c'est impossible. Il faut que je rentre à Paris tout de suite. Je suis vraiment désolé.
Quoi ? Excuse-moi, j'ai pas compris. T'as dit quoi ? Hein ? Tu parles tout vite. Ouais. Tu dois aller où ? Viens. Viens, rentre au château, reviens.
Rien qu'une vulgaire partie de cul. Difficile de les imaginer dans les subtilités d'une passion 19e. Je veux dire, qu'est-ce que leur génération sait du romantisme ? Qu'est-ce qu'ils savent de la traque, de la fièvre de l'anticipation ? Ah, la merveilleuse attente, la lente croisière des corps qui s'abandonnent, l'exquis délice du plaisir différé. Nous sommes à l'âge du plaisir instantané, c'est l'érotisme fast-food. J'ai tourné les talons et je suis rentré à la maison.
Ah tiens, t'es sorti faire une balade ? C'est curieux, t'as pas emmené le chien ?
Le chien, il est bien question de chien.
Bah, Mais le prends pas comme ça.
Au cinquième jour de leur liaison, je me rappelle avoir pensé, ça suffit. Je ne savais pas pourquoi ça me déprimait. Je ne supportais plus de la voir disparaître dans l'allée du château. Ça me faisait un pincement, comme un petit rongeur qui me grignoterait le diaphragme. Était-ce la désinvolture qu'elle mettait à cette affaire? Était-ce son chewing-gum, son jogging? Enfin tout de même, pour un rendez-vous d'amour, la femme française se parfume, se fait belle, un peu sexy, non? Mais Gemma, elle aurait aussi bien pu aller étrier son cheval. On aurait pu s'attendre à lire partout dans son journal le nom de son amant, une confession, la mention de ses activités romantiques de la journée. Mais c'est surtout sur son mari qu'elle écrit. Comment, enfermée dans son atelier, Charlie ne remarque jamais ses absences. Par conséquent, elle n'a jamais à lui mentir. En rentrant de ses escapades, elle est pleine d'affection pour lui. Elle a envie de lui faire plaisir. Elle se sent si débordante d'énergie qu'elle veut faire plaisir à tout le monde. Même à Wheezy Rankin, pour qui elle exécute plusieurs commandes au manoir. À propos d'Hervé, elle n'écrit que ceci.
Je ne sais toujours pas grand-chose de lui, et vice-versa. Je lui ai juste dit où j'habite et je lui ai donné mon nom. Mon nom de jeune fille, c'est plus sûr. Il croit que je suis Madame Tate. C'est mieux de ne pas parler. Pas de mensonges, de paroles qu'on regrette. On se voit, on roule sur le tapis et c'est fantastique.
Moi, Joubert, je supporte à peine de lire ça aujourd'hui. À l'époque, j'étais seulement impatient de voir se terminer cette sale petite affaire. Ce qui se produirait dès qu'Hervé serait rentré à Paris. Une baise de vacances avec une Anglaise mariée, de quoi se vanter auprès des copains. Le lendemain matin, Hervé est venu à la boulangerie.
Et deux pains au chocolat, voilà. Déjà septembre, bientôt de retour à Paris?
Ouais, en fait, j'entre aujourd'hui.
Ah. Alors, bonne route. Au revoir.
Merci, à bientôt.
Allez, tire-toi, petit con. Et voilà, fin de la romance. Son amant était reparti à Paris. Sa brève liaison était terminée. On aurait pu penser que Mrs. Bovary allait à nouveau sombrer dans un ennui profond. Mais non. Chaque fois que je la voyais, elle semblait irradier une énergie brute, une sorte d'excitation contenue. Elle m'a dit qu'elle travaillait beaucoup. C'était une période où elle faisait du shopping. Pas selon son habitude, ce n'était plus une activité retenue, gouvernée par un souci d'économie, mais un élan frénétique, vorace, démesuré, une cascade de folles dépenses. Gemma écrit qu'elle ne s'était pas autorisée ce genre de folie depuis des années. Parmi les objets qu'elle a achetés à Bailleville, Rouen et ailleurs, elle mentionne un canapé, 2000 euros, un paravent, 5000 euros, deux chaises, une agrafeuse, un socle en marbre, un livre sur le design suédois gustavien, de la toile de Jouy Garance pâle sur fond blanc, du lin gris et blanc. Peu après, Gemma a vidé son salon. Le style agri-pauvre, les tabourets à traire, les meubles rustiques, les fers à castrer sont apparus un samedi après-midi sur la pelouse. À la nuit tombée, ils avaient été exilés dans la grange. Pendant que Charlie était en Angleterre, elle a installé le nouveau décor, rideaux, tapisseries et baldaquins, selon Gemma, une sorte de liaison dangereuse à la suédoise. Madame Bovary s'est également elle-même redécorée. Mes accessoires, c'est ainsi qu'elle appelle les bottes, les chaussures, les ceintures, les bas, le maquillage, le long manteau de cachemire et la bouillotte. En lisant son journal, on a l'impression qu'elle se prépare pour un rôle, comme une actrice, répétant certains gestes, essayant des maquillages, apprenant à se mouvoir dans une robe peu familière, passant des après-midi dans sa chambre à, disait-elle, répéter le coup du manteau et de la guêpière. En public, l'apparence de Gemma semblait inchangée. Quand elle venait à la boutique, elle avait son allure négligée. Puis, on était frappé par un détail nouveau et incongru. Un jour, du rouge à lèvres, Le lendemain, du mascara. La fois d'après, des talons hauts. Toutes choses que je n'avais jamais vues sur elle. Enfin, un jour d'octobre, elle est apparue dans la tenue complète. Et j'ai compris qu'elle s'efforçait de jouer ce personnage si banal, la blonde. En fait, une combinaison éculée d'attributs. Les jeunes femmes ignorent-elles à quel point cette image est dévaluée ? Une valeur d'il y a 40 ans. La frange décolorée, le petit nez stupide, le regard dur, la moue boudeuse, la mini-jupe idiote, la cheville cambrée, la jambe tendue, ce qui dans la nature, chez certains cervidés par exemple, indique la disponibilité sexuelle. Vraiment, je ne lui trouvais aucune allure. Bonjour Madame Bovary, vous allez bien ?
Oui, très bien, merci.
Bonjour.
Bonjour, j'ai vu de 3 croissants, 3 brioches et une tarte aux pommes.
Voilà, ce sera tout ?
Non, je voudrais aussi une baguette, s'il vous plaît.
Une baguette ? Voilà. Et votre mari, il va bien ?
Oui, oui, très bien, merci. Au revoir.
Au revoir. Madame Bovary, vos croissants, vos croissants.
Elle les a oubliés. Tu le rapporteras tout à l'heure quand tu rentreras pour ta sieste.
Ah bah oui.
Je me dirigeais vers la maison des Bovary, mes croissants à la main. En remontant l'allée, j'ai vu que le van de Charlie n'était pas là. Il y avait de la lumière et malgré les fenêtres fermées, on entendait un rugissement d'opéra, Mozart. J'ai frappé, appelé, tapé au carreau. Personne n'a entendu. J'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre. Quel changement ! À la place du rustique marronasse, tout n'était que pâleur, un décor blanc et gris perle. Deux silhouettes sont brièvement entrées dans mon champ de vision avant de disparaître, Gemma et Hervé de Bressigny.
T'es sûre pour ton mari ? J'ai cru voir quelqu'un à la fenêtre.
Mais non, promis juré, il est à Londres jusqu'à dimanche. Viens.
Il est intéressant de noter que c'est la caméra de télévision qui nous a appris à espérer une perception complète et continue des événements. Dans les documentaires animaliers, par exemple, quand un serpent poursuit un rat dans un trou, la caméra est là. Précédant le reptile, elle nous permet, en tant que téléspectateurs, d'attendre avec le rongeur angoissé dans ce qui va bientôt devenir une petite chambre d'épouvante. Mais grâce au ciel, dans la vraie vie, le rat et le serpent disparaissent sous terre et voilà, on ne voit pas la suite. On reste hors du trou et on échappe à un spectacle pour le moins éprouvant. C'est ce que j'ai ressenti en voyant Gemma et Hervé disparaître. Je suis rentré chez moi dans le crépuscule, sans avoir livré le breakfast de Madame Bovary.
C'était super, dans la chambre d'amis. On a parlé un peu cette fois, on s'est rationné à 2 questions chacun. Je lui ai demandé son âge et s'il avait eu son examen. Oui, admis en dernière année. Ce qui, j'ai pensé, en fait un bébé d'environ 22 ans. En réalité, il est plus âgé. Il a toujours raté ses examens, il a eu son bac très tard, puis il a fait son service militaire.
30 ans.
Mmh. Il m'a demandé mon âge et il a été surpris.
T'avais intérêt à dire ça.
Il a aussi demandé où était Charlie exactement. C'est tout. Je crois qu'il ne veut pas en savoir tout non plus. Plus excitant de rester des inconnus. Mais t'as dit qu'il dormirait là et rentrerait à Paris après le petit-déj, mais il s'est montré de plus en plus inquiet.
C'est quoi ce bruit ?
Oh, ça c'est rien, c'est juste mon chien Carrington.
Et ça ?
C'est des souris, on a plein partout. C'est un cauchemar.
Et si ton mari débarquait à l'improviste ? On peut jamais savoir.
Hey, je t'assure, il revient que dimanche, Hervé.
Écoute, je crois que je vais quand même rentrer.
Ok, comme tu veux.
Non, en plus ça m'arrange.
Visiblement, il n'avait qu'une idée, fuir. J'ai pensé que j'avais tout gâché. Mauvais plan de l'inviter ici. Mais à la porte, il m'a dit que la prochaine fois, ce serait mieux de se voir au château. Il m'enverrait un mail pour me dire quand. Donc il veut une prochaine fois.
Elle a 30 ans. Elle est mariée.
Elle est anglaise et sa maison est pleine de souris.
Hervé, t'es complètement taré.
Et toi, t'es jaloux, mon petit Arnaud. Elle est extra au lit.
Et Delphine, t'y as pensé?
Ah, je sais, j'y peux rien. Je suis complètement accro à cette fille.
Comment elle s'appelle?
Elle s'appelle Gemma. Gemma Tate.
Gemma Tate? Ouais.
Mais Hervé, que dis-tu là? Tu veux passer une partie du trimestre à la Boissière. Et pourquoi? Tu ne peux pas travailler ici?
Je me concentre mieux en Normandie, maman. J'ai pas de distraction. Vous savez, je peux faire toutes mes révisions là-bas.
Et pour tes cours? Comment comptes-tu faire?
Je reviendrai pour les plus importants. Pour les autres, Arnaud me passera ses notes.
J'espère que tu sais ce que tu fais. Si tu échoues l'été prochain, c'est fini. Je m'en lave les mains. Marre de payer pour te voir vasouiller. Et Delphine? Tu vas pas la voir beaucoup si tu es à la campagne, qu'en pense-t-elle?
Tout va bien, elle comprend. Je gère, maman.
Oh, tu gères. Je suis ravie de l'apprendre.
Donc, en gros, tu pars 2 semaines pour bosser. Tu me dis ça au dernier moment. Attends, mais si t'es à la Boissière, tu seras pas là pour la fête de Ségolène et de Mathieu. Hervé, tu m'écoutes, oui ou non? T'es tout le temps ailleurs, parce que tu peux être chiant avec ton boulot. Allez, c'est bon, j'y vais.
Désolé, Delphine. Je suis vraiment désolé.
Pour éviter les questions, j'ai menti à propos des croissants de Madame Bovary. Et j'ai dit à Martine qu'ils avaient été livrés alors qu'en fait, je les avais mangés en rentrant. Malheureusement, Martine a le chic pour détecter les mensonges.
De quoi tu parles?
Bah des miettes, Raymond. De quoi je parle? Plein ta barbe, là, regarde. Plein ta veste. Tu les as mangés, avoue. Tu as eu la flemme de les leur porter. Mais c'est malhonnête, elle les a payés. Pourquoi t'as fait ça? Tu perds la boule ou quoi?
Pour rien au monde, je ne lui aurais donné la vraie raison de cette livraison manquée. Ni parlé de ce que j'avais vu par la fenêtre de Gemma. Je voulais garder pour moi seul le secret de Gemma. Le lendemain après-midi, Martine m'a annoncé avec entrain qu'elle était passée chez les Bovary en rentrant de la boulangerie. J'étais épouvanté. Mon imagination parsemant la maison de Gemma d'indices adultères. Sous-vêtements, souliers dépareillés, verres de vin. Dieu merci, les détails de sa visite étaient tout autres. Charlie était là, en tablier. Après une semaine en Angleterre, il venait de rentrer avec les enfants. C'était leurs vacances de Toussaint.
Bonjour. Je vous apporte les croissants que votre femme a oubliés avant-hier à la boulangerie.
Oh, c'est gentil. Oui. J'ai quelque chose sur le feu. Entrez. Désolé. Le dîner des enfants. Et Gemma est là au téléphone. Mais prenez un verre de vin.
Non, non, c'est... Oh, c'est... The décor. C'est new. C'est joli.
Oui, Gemma a redécoré pendant mon absence. Tout blanc, ça donne de la lumière.
Oui, c'est vrai.
Elle n'a pas regardé à la dépense, je crois. Elle est folle, qu'est-ce qui lui a pris? Elle a dépensé une fortune qu'on n'a pas.
J'ai fait ce qu'il fallait. Bien entendu, je n'ai pas dit un mot de ta conduite stupide. Mmh. Est-ce que tu sais, Raymond, que les maris anglais font les courses?
Mmh.
Et les maris anglais ne restent pas assis là à lire le journal comme certains. Ils préparent le dîner. Mmh. Et as-tu remarqué que les maris anglais sont attentifs à ce que font leurs femmes? Gemma a changé la décoration du salon, une surprise. Et elle a tout fait elle-même.
Mmh.
Les maris anglais ne se plaignent pas de la dépense. Ils apprécient.
Mmh. Je n'ai rien répondu. J'ai juste pensé, oui, ils apprécient et ils portent les cornes. Pendant leur absence, leurs femmes reçoivent des jeunes gens et ils ne soupçonnent rien. Selon le journal de Gemma...
Une liaison qui me fait autant de bien ne peut pas être mauvaise. J'ai envie que tout le monde soit heureux, surtout Charlie. Je m'entends vraiment bien avec lui ces temps-ci. C'est drôle comme l'amour déteint.
C'est vrai. L'amour déteignait. Gemma en avait tant à donner qu'elle a emmené les enfants de Charlie à Euro Disney, un cadeau à plus de 1 000 euros. L'amour et Mickey ont encouragé Justin et Delia à prendre la main de Gemma pour la première fois, deux petites paumes chaudes. Et Gemma, pour la première fois aussi, s'est sentie affectueuse et maternelle. Elle les a emmenés à Rouen, acheter un manteau à Delia et des chaussures de sport à Justin. Ces largesses imprévues, en décuplant l'enthousiasme des enfants pour leur belle-mère, ont incité Judy Bovary à envoyer une de ses fameuses lettres dès leur retour à Londres, une lettre dont Charlie est même parvenu à rire, ravi de l'entrain de Gemma et de ses nouvelles relations avec les enfants.
Charlie, tu n'as jamais assumé tes responsabilités parentales. Vous croyez tous les deux que dépenser est un succès d'année d'amour. Merci d'encourager leurs appétits de consommateurs que rien ensuite ne peut satisfaire. Tu joues aux pauvres, mais tu empoches un énorme revenu net d'impôts. Pourquoi serais-tu exonéré alors que certains d'entre nous doivent payer plein pot? Pas un jour ne se passe sans que j'envisage de te dénoncer au fisc.
Me dénoncer au fisc? Elle est bien bonne, celle-là.
Oh, Judy ne ferait jamais ça. N'est-ce pas?
Mais non. Bon, je vais dans mon atelier fabriquer cet énorme revenu exonéré d'impôts.
Moi, je vais promener Carrington. À tout à l'heure. Il y a un froid de chien. Allez, dépêche-toi, Carrington, on y est.
Gemma, viens, entre vite. On se gèle.
Oui, surtout moi.
Mais, Madame Tate, vous êtes pratiquement nue sous votre manteau. Jolie guêpière.
Viens vite, on a une heure et demie, ok?
Et comment?
Gemma parle de Félicité à propos de ses après-midi avec Hervé à faire voler la poussière du salon. Dans l'esprit de Gemma, Félicité et Perfection devenaient un cocktail de tout ce qui est français et voluptueux. Le champagne et le foie gras qu'elle apportait, ses sous-vêtements, la froideur délabrée de la pièce, la pâle lumière de novembre et les gris fantomatiques de la soie et du petit point fané qui lui donnaient l'impression d'être dans la grisaille d'un tableau 18e. Ainsi, Gemma appelait Félicité sa liaison sans risque, gérée comme un business, avec ses heures comptées et sa prophylaxie, ses investissements sentimentaux limités, la complète banalité de sa dentelle et de son latex noir. Moi, Joubert, je me souviens de ces après-midi qui se sont étirés jusqu'à Noël comme d'une chose innommable, une parodie d'amour. Quand j'ai vu ce que j'ai vu, j'en ai été malade. Quelque chose cognait dans ma poitrine, brûlait mes organes vitaux. Un frisson glacé remontait dans mon pantalon. Je m'attardais dans le crépuscule jusqu'à ce que l'un d'eux, généralement Hervé, pense à tirer les rideaux en lambeaux. Comme je le haïssais.
C'était Gemma Bovary de Posy Simmons.
Adaptation radiophonique de Lili Stein.
Septième épisode avec
Elodie Hubert,
Gemma Bovary,
Vincent Schmitt,
Raymond Joubert,
Laurent Lederer,
Charlie Bovary,
Léonie Pinjot,
Martine Joubert,
Lorenzo Lefebvre,
Hervé de Bressigny,
Anne Canovas,
Florence de Bressigny,
Antonin Chalon,
Arnaud,
Manika Auxir,
Delphine
et bien d'autres. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière.
Bruitage, Sophie Bissens.
Équipe de réalisation, Cédric Chatelus, Pierre-Henri, Manon Dubus, Jean-Mathieu Zande.
Traduction, Lili Stein et Jean-Luc Fromental. Gemma Bovary est publiée aux éditions de Noël.
À demain.